Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage, tous les jours deux destinations où on aimerait tous partir en vacances tout de suite. Une destination plus loin, une destination en France, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, nous partirons donc vers un pays bien trop discret. Je trouve qu'il n'est pas assez bling-bling, il ne fait pas assez parler de lui-même. C'est un pays que j'aime beaucoup parce que d'abord, ses habitants sont d'un naturel, d'un accueil, d'une simplicité qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Il est magnifique pour ses plages, pour son patrimoine incroyable. C'est pas si loin et pourtant, quand vous y allez, vous êtes tout de suite ailleurs. C'est le Portugal. Et puis juste avant, en première heure, une ville qu'on a longtemps sous-estimée pour les vacances et les week-ends, mais qui depuis quelques années redevient une destination touristique majeure, c'est la ville agréable branchée au confluent de la Saône et du Rhône, avec l'un des plus vastes ensembles Renaissance d'Europe. Ça, c'est pour le patrimoine. Ses traboules, ses bouchons, sa gourmandise. Tout de suite, nous partons pour Lyon. Le Lyonnais est en forme, c'est bon signe. Et pour partir en voyage, les meilleurs, toute une tablée d'excellents compagnons de vacances. Nous avons avec nous Nathalie Elal, auteure grande voyageuse. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Pour le côté cuisine et ce qu'on met dans la glacière, Olivier Pouls, bonjour.
Pour faire confiance, bonjour tout le monde.
Et puis Jean-Bernard Carrier du guide de Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour Philippe.
Alors Lyon, bon, on sait à peu près tous où c'est. Vous pouvez nous reposer un petit peu le décor quand même.
Ouais, on va quand même rappeler que c'est dans la vallée du Rhône, à 450 km de Paris et à 300 km de Marseille. Et c'est pris en sandwich entre d'un côté les Alpes et de l'autre côté l'Auvergne. Donc on va dire que c'est très très bien placé, Philippe.
Oui, oui. C'est une ville, moi j'aime bien dire que c'est une ville une très grosse ville, mais quand même un peu à la campagne.
On va dire 1,3 million d'habitants pour l'agglomération, ouais. Avec beaucoup d'espaces naturels, beaucoup d'espaces verts. C'est une ville agréable à vivre.
Oui, et puis la montagne n'est pas loin, la mer n'est pas si loin. Enfin, c'est vraiment très, très chouette comme endroit. Nathalie, il y a du beau monde qui vient de Lyon aussi. Hein.
Oui, puis je dois dire que je suis une amoureuse de cette ville. Alors, je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui, c'est vrai. Oui, beaucoup de beau monde. Alors, je commencerai par exemple par Maurice Jarre, l'immense compositeur de musique de film. La chanson de Lara, le docteur Jivago, vous en rappelez sans doute.
Donc et ça, c'est puis... un air lyonnais, en fait.
Vachement lyonnais, oui. Du côté de la Russie, quand même. Hein. Un petit peu frisquet. Le fils de, Maurice Jarre, Jean-Michel Jarre, évidemment lyonnais, lui aussi. Alors là, on passe sur un autre registre. Ouais. Mythique, hein, aussi.
Mythique.
Oxygène,
ouais.
Bien sûr. Ça sert à respirer, évidemment. Bon, après, un tout autre registre. Là, il y a pas vraiment de musique, mais c'est une autre musique, c'est peut-être celle du cœur. Je pense à l'abbé Pierre, son vrai nom, Henri Grouès, qui est né à Lyon en 1912, le fondateur évidemment d'Emmaüs, issu d'une famille bourgeoise, aisée, pieuse de négociants en soie, on y reviendra sur la soie lyonnaise. Un autre très important, un lyonnais très important, Louis Lépine, inventeur du passage piéton, du sens interdit, de la première brigade criminelle, et bien sûr du concours qui porte son nom, cette espèce de foire aux inventions, le célèbre concours Lépine, absolument.
J'avais vu une fois une invention à ce concours Lépine. C'est une voiture qui se nommait, c'est son nom, désolé, ça sonne pas très bien, ça s'appelait la bouffe-neige. Et en fait, c'était pour les routes enneigées, la neige rentre dans la voiture, une fois qu'elle est sous la voiture, enfin à l'intérieur du corps, il y a des brûleurs à gaz qui font fondre la neige et ça ressort en eau à l'arrière.
Alors, vaut mieux pas être trop près derrière d'ailleurs quand elle passe. Ouais.
Et puis je vous jure qu'il vaut mieux pas être pressé non plus. Parce que
c'est marrant, on l'a pas revu, hein, la bouffe-neige.
Ça n'a pas été un gros succès.
Alors, il y a aussi deux autres hommes illustres dont l'un a donné ses lettres de noblesse à la gastronomie actuelle et surtout a contribué à mettre les chefs dans la lumière. Je pense bien sûr à Paul Bocuse, hein, la statue du commandeur. Mmh. Et puis toujours dans la gourmandise, enfin d'une autre manière, Benjamin Delessert, vous savez celui qui a mis au point le sucre de betterave en 1809. Ça, ce sont deux grands Lyonnais. Et puis évidemment, il faut penser à tous ces hommes et ces femmes de la Résistance parce que Lyon mérite vraiment son titre de capitale de la Résistance. résistance. Il y a eu notamment Lucie et Raymond Aubrac qui ont marqué cette ville, même s'ils ne sont pas du tout nés à Lyon. Et puis Jean Moulin, qui lui était né à Béziers, mais arrêté à Caluire, évidemment, figure de la résistance, s'il en est.
Merci Nathalie. Olivier, bon alors Lyon, fastoche là.
Pour... Oui, bah là on est en terrain conquis, hein. Oui. J'espère que vous avez faim. Kurnonski disait Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie, je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Ouais. Alors c'est parti, hein. Cervelle de canut, quenelle, tablier de sapeur, gratin d'écrevisse, saucisson brioché, volaille, tarte à la praline. C'est un festival, et un festival que l'on doit essentiellement à de très nombreuses femmes, on les appelle les mères, et je vous en parlerai tout à l'heure.
Très bien.
Ça tombe bien, on est venu à Jeun, je précise.
Ah ouais, 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 c'est vrai.
Bah j'espère.
Faut, c'est vous qui le dites.
Cette émission. Tout à l'heure à 17h, je vous emmènerai au Portugal, un pays extrêmement varié, avec des cols enneigés sur la Serra d'Estrela, avec des petites criques paradisiaques, avec également l'Alentejo et ses plaines desséchées à l'infini. Moi, ça, c'est mon endroit préféré. Mais dans un instant, nous partons donc pour l'ancienne capitale des Gaules avec un Lyonnais magnifique, Éric Emmanuel Schmitt, l'écrivain français le plus lu et traduit au monde. A tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Et si on partait 2 heures de voyage tous les après-midi, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader comme ça, légèrement. Grand départ pour le Portugal tout à l'heure après 17h, mais là tout de suite nous sommes donc à Lyon, l'ancienne capitale des Gaules. Et notre guide cet après-midi est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Ses livres sont traduits en 46 langues, dans plus de 50 pays. On joue régulièrement ses pièces. Il est aujourd'hui l'auteur le plus étudié dans les collèges et les lycées. Et il est profondément attaché à ses racines lyonnaises. C'est beaucoup d'honneur de vous avoir en ligne aujourd'hui depuis Lyon, Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Sainte-Foy-lès-Lyon, juste à côté de Lyon. Vous avez vécu là-bas jusqu'à vos 20 ans. Et quels sont les souvenirs d'enfance ou d'adolescence liés à cette ville pour vous? On m'a parlé d'une scène hitchcockienne.
Oui, mais vous savez, à Lyon, il y a une grande place qui s'appelle la place Bellecour, qui est une des 5 plus grandes places de France. Et ma sœur aînée avait un jeu, c'était de rabattre les pigeons sur moi lorsque j'étais petit. Donc, le jour où j'ai vu Les Oiseaux de Hitchcock, j'ai dû quitter la salle de cinéma parce que je me retrouvais avec ces angoisses d'enfant, ces oiseaux qui fondaient sur moi. Mais bon, mes souvenirs de Lyon, ce sont pas des souvenirs d'horreur. Hein. Je trouve que c'est une grande chance d'être né à Lyon parce que, vous savez, les Lyonnais sont à la fois fiers et discrets. Mais si on les chauffe un peu, et surtout si on les fait boire, et particulièrement des vins de la région, ils vont finir par vous dire qu'il n'y a pas plus belle ville au monde. En tout cas, c'est ce que disait ma grand-mère, qui n'était jamais allée nulle part. Lyon était la plus belle ville du monde. Et puis, vous savez ce que disait aussi Guignol, la marionnette, qui est l'ancêtre des Gilets jaunes, puisque au fond, c'est une marionnette qui tapait sur le gendarme. Guignol disait « Tout le monde, il peut pas être de Lyon. » Parce que à Lyon, on met des Y partout. Hein. Ça s'appelle un lugdunomisme. Lugdunum, c'est le nom de Lyon dans l'Antiquité. Voilà. Alors le lugdunomisme, c'est de mettre des Y partout.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs de la fête des Lumières, petit? Est-ce que vous a émerveillé?
Ça, c'était une magie totale. Beaucoup plus magique que Noël. Parce que c'est le 8 décembre. Et c'est pour commémorer la Vierge qui avait sauvé la ville de Lyon au 19e siècle. En fait, c'était tout simple à mon époque. Maintenant, c'est devenu très technologique, mais c'est aussi magnifique. Mais à mon époque, c'était tout simple, c'est-à-dire que toute personne mettait sur chacune de ses fenêtres plusieurs verres colorés avec une bougie à l'intérieur. Et donc, tout Lyon était illuminé comme ça avec des... C'était à la fois doux et multicolore. Et une fois qu'on avait ça chez soi, on partait dans les rues pour aller voir ce qu'avaient fait les autres. Et c'était un moment de recueillement, même si on n'était pas, croyant, même si on n'était pas chrétien. C'était comme si Lyon se fêtait elle-même, et puis c'était comme si l'homme aussi fêtait le fait qu'il peut apporter la lumière au cœur de l'hiver. Donc c'était quelque chose de très doux et très chaleureux.
Ah, pour un enfant, ça doit être incroyable. Jean-Bernard, oui, oui. Vous vouliez ajouter un mot ?
Oui, cette fête des Lumières, c'est vrai que Eric Emmanuel le dit, c'est très enraciné, ancré dans la culture lyonnaise, mais c'est devenu une attraction touristique à part entière. On vient du monde entier, spécifiquement oui. pour cette fête des Lumières. Il faut réserver parfois 6 mois à l'avance un hôtel.
Ah oui. Ouais. Ah oui. Alors, vous avez quitté Lyon à 20 ans pour aller étudier à Paris, à Normale Sup. Mmh. C'est, j'ai bien compris, une ville que vous avez toujours vraiment dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes éloigné de Lyon ? Quel œil vous avez jeté sur cette ville ?
Ben vous savez, c'est comme l'enfance. C'est quand on passe la frontière de l'enfance et qu'on se retourne, qu'on regarde le paysage, qu'on le quitte et qu'on se dit « Ah oui, j'ai été enfant ». Et ça m'a fait et c'était important. Et bien moi, quand j'ai quitté Lyon et que je suis arrivé à Paris, j'ai regardé Lyon et je me suis dit « Ah oui, j'ai été lyonnais, mais je le suis profondément ». Oui, je m'en suis rendu compte parce que il y a un caractère lyonnais qui vient de cette ville. C'est-à-dire, par exemple, quand on est à Lyon, on est de plein pied dans plusieurs siècles. Moi, quand j'allais dans mon lycée, je traversais le vieux Lyon, c'est-à-dire le quartier de médiéval et de la Renaissance, complètement intact. Je montais une côte qui me permettait d'apercevoir au loin les gratte-ciels de la Part-Dieu, donc la modernité. Et puis j'arrivais dans mon lycée qui était du 19e siècle en passant devant l'amphithéâtre romain. Et donc je marchais de plein pied dans plusieurs siècles. Et je crois que c'est resté pour moi, et je crois que c'est dans mes livres aussi. Je suis de plein pied dans plusieurs siècles. J'ai pas besoin de retourner en arrière, il suffit que j'avance.
Est-ce que le Lyon d'aujourd'hui est le Lyon que vous avez connu à votre enfance ? Parce que c'est une ville qui, comme beaucoup de villes en France, d'ailleurs, ces dernières années, a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Est-ce que vous la retrouvez telle qu'elle ?
Oh, ben je trouve que le Lyon d'aujourd'hui est beaucoup plus beau que le Lyon de mon enfance.
Ouais, je suis d'accord, il est chouette, ouais.
Ah oui, oui, dans mon enfance, Lyon était noir, parce que les façades n'avaient pas été refaites, particulièrement les façades des quais de Saône, qui sont maintenant orange, rose, jaune, enfin florentine, en quelque sorte, et c'était fait pour être comme ça. Et puis, il y avait aussi un autre phénomène dans mon enfance, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de brouillard, autant qu'à Londres. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on appelait Lyon Mirelingue la Brumeuse.
Ah oui
et depuis, on a fait des barrages qui ont changé un peu les conditions hydrographiques de Lyon et maintenant il n'y a plus ces nuages, ces brumes, et donc Lyon est devenu beaucoup plus une ville italienne, en tout cas pas loin de l'Italie.
On va continuer à découvrir avec vous ce Lyon merveilleux, Eric Emmanuel Schmitt. Dans un tout petit instant, vous nous donnerez vos coins, vos balades préférées. On se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1.
Et si on partait ? Tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans contraintes, sans frontières, sans rien, rien que le plaisir de s'évader. Après 17 heures, nous partirons au Portugal, un pays où il fait bon vivre. 3000 heures de soleil par an, 850 km de plages baignées par l'Atlantique, ça va être super. Mais là, tout de suite, on retrouve Lyon et son riche patrimoine. Patrimoine gallo-romain hérité de Lugdunum, hein, c'est comme ça que vous dites, Marc-Emmanuel Schmitt.
Lugdunum.
Lugdunum. Ouais. Eric Emmanuel Schmitt, pardon, excusez-moi. Pourquoi je dis ça. Alors, il y a toujours.
Ben, si vous étiez savoyard, vous diriez Victor Emmanuel.
Ah bon ? Ah oui, d'accord. est-ce qu'il y a toujours cette petite rivalité sourde avec Paris chez les Lyonnais ? Est-ce qu'il y a toujours un positionnement un peu difficile ou ça a disparu ?
Non, c'est pire qu'une rivalité sourde, c'est une ignorance totale de ce qu'est Paris. C'est-à-dire que le Lyonnais habite dans un royaume en fait, je vais vous expliquer, le Lyonnais a une boussole qui n'indique que deux directions. Le sud, puisque Lyon continue vers la Méditerranée, et l'est, puisque Lyon s'épanouit dans les Alpes. Le nord, ça n'existe pas. On sait qu'il y a un truc qui s'appelle une capitale, qui est Paris. Et au-dessus de Dijon, là, il y a un truc qui s'appelle Paris. Ouais. Mais on s'en occupe pas. Et le massif central est une barrière définitive. Donc, on ignore aussi l'ouest. Voilà, on n'indique que deux directions. Et là, le Lyonnais est le roi. Mais un roi simple, hein, un roi débonnaire, mais dans l'ignorance totale de ce qui se passe au-dessus. Et d'ailleurs, il n'aime pas tellement que quelqu'un veuille réussir à Paris. Je ne peux pas m'empêcher de voir dans l'histoire de Gérard Collomb, qui était un très bon maire adoré des Lyonnais, le fait que tout d'un coup il ait pris des responsabilités nationales à Paris a totalement déplu aux Lyonnais. Oui. Il faut rester dans le royaume.
On ne lui a pas pardonné.
Ah oui, donc, il l'a payé cher.
Oui, mais vous savez, Lyon, c'est une ville qui a ses exigences, parfois de belles exigences, par exemple. C'est une ville qui est toujours en recherche de l'équilibre, sans doute parce qu'elle a deux cours d'eau et parce qu'elle a deux collines. Parce que c'est une ville qui, grâce aux deux collines, c'est une ville à la fois dans laquelle on peut se perdre, mais c'est une ville qui se montre, puisqu'on monte sur les collines et on voit Lyon. Et puis il y a ces deux fleuves qui s'épousent, enfin ces deux cours d'eau qui s'épousent, la Saône et le Rhône. Et donc Lyon est une ville véritablement toujours qui cherche la sérénité, l'équilibre, l'accord. Elle, par exemple, va élire des maires, elle les prend à droite, elle les prend à gauche, elle les met au centre, toujours. Et vous allez voir que pour le suivant, c'est ce qui va se passer. Il a beau être écologiste, il va finir au centre, parce qu'il y a cette vieille tradition qui a été incarnée par Édouard Herriot, qui a été 50 ans maire de Lyon, du radical socialiste. C'est une ville modérée, tempérée, qui oblige à cela.
Ah, c'est très intéressant. Est-ce que votre caractère, comme ça, qui paraît lui aussi assez serein, réservé, presque pudique, c'est Lyon aussi ?
Oui. Un jour, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Autobiographie sous forme de ville », pour parler de Lyon plus que de moi, mais en l'écrivant, je me rendais compte que vraiment j'étais lyonnais. C'est-à-dire, j'ai pris des qualités et des défauts des Lyonnais. Bon, des qualités, c'est peut-être cette recherche de l'équilibre, cette volonté de ne pas affecter l'autre avec ses soucis, d'offrir toujours une apparence sereine, voire peut-être même un air un peu sénatorial, ça peut être le défaut du Lyonnais. Et puis la fidélité aussi du Lyonnais. Le Lyonnais met beaucoup de temps avant d'ouvrir son cœur et la porte de sa maison. Mais quand il l'ouvre, c'est définitif. Mais en même temps, j'ai ces défauts aussi du Lyonnais, c'est-à-dire justement cette circonspection qui fait que je regarde longtemps quelqu'un avant de savoir ce que j'en pense vraiment. Parfois, je peux fuir mes folies ou ma folie, alors que de temps en temps, la folie, c'est le meilleur guide.
Quels sont vos meilleurs coins, vos balades préférées à Lyon, celles que vous nous conseilleriez ?
Oh, bah, il faut absolument, évidemment, se promener dans le Vieux Lyon, ce quartier Renaissance. Enfin, moi, c'est mon quartier, puisque j'y passais tous les jours. C'est une beauté totale. C'est un voyage, non pas seulement dans l'espace, mais dans le temps. Il faut se promener sur les quais du Rhône. Il faut monter ensuite la colline de Fourvière. Et puis regarder, et puis rentrer dans une église, même si on n'est pas croyant, et puis méditer, parce que Fourvière, c'est une colline qui prie. Elle est en face de la Croix-Rousse, qui est la colline qui travaille. C'était celle des Canuts, celle des révoltes sociales, et en face, il y avait la colline des moines, des prêtres, des couvents. Il en reste quelque chose, et à mon avis, c'est créé par le climat. Il y a quelque chose de profondément apaisé et apaisant sur cette colline de Fourvière. Il faut aller faire un tour au musée des Beaux-Arts, qui a une très jolie cour intérieure. J'y vais simplement pour le bonheur d'être là. C'est comme si c'était un territoire d'enfance éternelle. Il y a absolument plein de choses magnifiques.
Vous savez, vous en parlez tellement bien, vous donnez tellement envie de...
Ah oui, surtout ne pas oublier d'aller manger.
Pas oublier. On va en parler dans un petit instant. Vous restez avec nous, en ligne bien sûr. On continue notre balade dans quelques instants. Et puis nous serons également en compagnie bien sûr de Nathalie Elal qui nous a déniché quelques histoires savoureuses sur votre Lyon chéri. A tout de suite sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, voici maintenant le Lyon de Benjamin Biolay, Lyon Presqu'île.
L'eau qui dort et se réveille d'une longue nuit de sommeil, c'est comme si près, dis les temps de larmes de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère, je serai. Dis les temps t'attendent par ciel, même à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère, j'espère revoir la mer et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylobi. Et l'autre fier d'aller jusqu'au sport d'hiver. C'est comme si j'étais parti, parti hier. Et puis la statue du roi soleil sur la grande place éternelle. De belles cours gorgées, gorgées, gorgées de soleil. Je serai dilettante et mort de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serai dilettante à temps partiel jusqu'à l'autre bout. J'espère, j'espère, j'espère revoir ma mère et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylobi. Lyon, presque. Avec ceux que je chéris, chéris que j'aime. Et puis, regardez pousser le lierre, la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serai dilettante et mort de rire en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serai dilettante à temps partiel jusqu'à l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère. Au revoir. Lyon, presqu'île. Lyon, presqu'île.
Presqu'île, la ville des débuts de Benjamin Biolay, un titre sorti en 2009.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes dans quelques instants, dans une petite demi-heure, au Portugal, un pays absolument magique, soleil, gens adorables, montagne, plage, tout ce qu'il faut. On va en parler tout à l'heure à partir après le flash. Juste à l'instant, nous sommes à Lyon, en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt, qui en parle merveilleusement. Vous en parlez tellement bien, Éric Emmanuel, qu'on risque de tous avoir envie de partir avec vous. C'est ça le problème. Si, sans vous, ça doit être un peu nul, Lyon.
Non, 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 vous en faites pas. La ville tient le coup.
Nathalie, il y a un personnage dont on ne peut pas ne pas parler à propos de Lyon, c'est de Guignol.
Oui, alors... Vous avez vu, je fais bien les petites marionnettes avec
ouais,
les mimines. Hein,
on est à la radio, vous savez.
Oui, on est filmé quand même. Alors, c'est vrai que des décennies avant Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, il y a un Lyonnais, alors on est au 18e siècle hein, quand même, je précise, il s'appelait Laurent Mourguet qui a inventé ce personnage de Guignol. Et le nom, alors là, je parle sous contrôle d'Éric Emmanuel Schmitt, bien sûr, je crois qu'il a consacré même un ouvrage à Guignol. Le nom lui aurait été inspiré par son voisin, un certain Jean Chignol, ou alors, il y a une autre théorie, ce serait une déformation de l'expression « guigner de l'œil » qui signifie « regarder en coin » parce que Guignol surveille en permanence l'arrivée du gendarme.
Ah, c'est dingue ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Emmanuel Schmitt? Quelle est la bonne explication?
Non, mais les deux sont bonnes parce qu'on ne prête qu'aux riches, même quand le riche est pauvre. Et Guignol, c'est un personnage qui évidemment est un espèce de support de fantasme dans lequel tout enfant se reconnaît parce que il a l'insolence de l'enfance, il pose les vraies questions, rien ne va de soi. Enfin, c'est toujours celui qui demande pourquoi et comment et qui en même temps est plein de joie de vivre et plein d'allégresse pour découvrir le monde. Donc, on ne peut pas ne Et je précise que le gendarme en question, c'est un idiot. Hein, c'est pas, mais c'est pas parce qu'il est gendarme, c'est parce qu'il est idiot. mais voilà, Guignol, c'est un personnage très vif, très intelligent, qu'a créé Laurent Mourguet, qui est d'ailleurs né dans le village où je suis né, Sainte-Foy-les-Lyons.
Je reviens à l'histoire justement de cet inventeur, Laurent Mourguet. C'était un ouvrier en soie, comme on disait, hein, un canut, ouais. Donc une famille très modeste. Il avait 10 enfants, il ne savait ni lire ni écrire, et donc sa condition de canut ne suffit pas à faire vivre sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va partir sur les routes comme marchand forain, puis il va se mettre comme arracheur de dents. Ben oui, mais évidemment, ben, la patientèle, elle pousse des cris épouvantables. Ça fait fuir tout le monde quand il arrache une dent avec ses tenailles. Donc, pour attirer une nouvelle clientèle, il a l'idée d'utiliser la marionnette de Polichinelle, donc un personnage de Commedia dell'arte, pour distraire ses patients pendant l'arrachage de dents.
Ah, c'est étonnant,
oui.
Ça.
Et puis, ça marche très fort, il y a du succès. Donc, vers 1804, il va abandonner ce métier de chirurgien dentiste improvisé et il s'installe avec son castelet. Un castelet, c'est un petit théâtre dans la grande allée des Brotteaux, au milieu du jardin, le petit Tivoli. Là encore, c'est un succès et petit à petit, il invente ses personnages de Niafron puis de Guignol, ce duo mythique de personnages purement lyonnais. Donc, Gnafron, qu'on connaît évidemment
moins bien,
absolument,
bah oui.
Qui est un savetier, un grand amateur de Beaujolais, au passage.
Ah, hein. Je ne me reconnais plus.
Oui, mais vous avez ni la bouche édentée, ni le nez et les joues écarlates comme Gnafron. Par contre, vous avez peut-être le tablier de savetier, parce qu'il est cordonnier. On dit alors un regrôleur, celui qui répare les grôles. Alors, c'est vrai que ce sont deux comparses, en haut en couleur. Guignol, lui, a plus un peu la langue bien pendue. Hein. Il utilise le parler lyonnais, les expressions truculentes. Et surtout, et ça c'est très important, il dénonce l'injustice sociale en prenant le parti des petites gens. Il est très identifiable, il a toujours sa tavelle, hein, c'est un bâton de bois à la main. Et puis il porte ce long catogan, vous savez, c'est un nœud qui retient les cheveux. Il y a une raison à cela, c'est parce que c'est un canut. Et pour éviter que les cheveux ne se prennent dans le métier à tisser, il fallait attacher les cheveux sur la nuque en catogan. Est-ce que je dis des bêtises, Éric-Emmanuel Schmitt, rassurez-moi.
Non, pas du tout. Non,
bon,
non,
alors
tout
va bien. En tout cas, cette marionnette devient l'emblème des Lyonnais, l'ambassadeur, hein, véritablement Guignol, de la ville de Lyon dans le monde entier. Ça s'exporte très bien. Et il faut comprendre qu'au départ, ce qui est un spectacle pour adultes devient ensuite un succès pour les enfants, mais très tardivement, seulement dans les années 50 en réalité. Ça passe, ça glisse du monde des adultes à celui des enfants, mais c'est toujours la truculence lyonnaise.
Ah, c'est une belle histoire, je ne savais pas tout ça. Les expressions truculentes lyonnaises, et Éric Emmanuel Schmitt, vous en avez des préférées ?
C'est plutôt des façons de parler, moi, qui me plaisent. C'est « en descendant, montez donc ». Vous verrez le petit comme il est grand. Et ou alors Guignol qui habite sans moine, rue de la Grand-Côte. C'est pas un patois, c'est une façon d'aborder le français. Par exemple, s'endormir, c'est pas tomber dans les bras de Morphée, c'est tomber dans les bras de l'Orfraie.
Voilà. C'est pas mal.
Tout est un petit peu décalage comme ça. Ouais. C'est un goût de l'insolite.
Ouais. Nathalie, une petite info sur Lyon encore assez incroyable. C'est franchement peu de gens le savent, c'est que ce serait une ville extraterrestre.
Oui, on dirait pas comme ça avec une ville ancienne, une ville bourgeoise, hein, comme on dit parfois. Et pourtant, Lyon et les extraterrestres, c'est une véritable histoire. À tel point que la ville pourrait accueillir la première ambassade extraterrestre de France. Je m'explique. Direction le Moyen-Âge. Nous sommes en 832 et il y a un char volant, traduction vaisseau spatial bien sûr, aurait été aperçu au-dessus de la place Bellecour avec trois individus, hommes et femmes, qui s'en échappent. Ils racontent avoir été enlevés alors qu'ils travaillaient dans les champs. Ils auraient fait un voyage à travers les cieux jusqu'à des planètes désertiques. Évidemment, personne ne les croit. Ils sont accusés de sorcellerie. C'était chaud à l'époque, hein, autant autant vous dire, d'être accusés de sorcellerie. Finalement, ils sont graciés par l'évêque local, mais on ne les revoit jamais. Et puis, rebelote, nous sommes le 12 octobre 1621, une lumière vive, des éclairs illuminent la nuit noire au-dessus de la place Bellecour. C'est une heure de spectacle devant plus de 500 témoins ébahis. Et certains parlent alors d'une montagne de pierre, d'autres d'un château arrondi et rebondissant dans le ciel lyonnais. Je ne sais pas s'ils avaient abusé du Beaujolais, bah, personne n'en
si,
sait rien.
Si, c'est assez clair.
Mais à cause d'eux, les Raéliens ont choisi en 2015 la place Bellecour pour proposer d'y installer la première ambassade extraterrestre de France. Évidemment, un projet pour la modique somme de 34 millions d'euros qui aurait pour but d'accueillir le retour d'OVNI à Lyon. Un vrai scénario de film.
Pas mal, pas mal. On sera là en tout cas. Hein, si, si
oui,
ça
on
se produit,
les attend. On les attend.
On s'organisera.
Le Beaujolais à la main.
Merci beaucoup, Nathalie. Vous êtes sur Europe 1 et si on partait, on continue à parcourir les traboules et les ruelles de Lyon dans un instant avec toutes les saveurs de cette ville délicieuse avec Olivier Pouls. À tout de suite.
16h-18h. Et si on partait, Philippe Googler.
Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1. Dans un petit instant, après 17h, après le flash, nous partirons pour le Portugal qui a ce charme légèrement suranné et moderne en même temps, branché et si familial. C'est vraiment ce mélange très délicat qu'on adore là-bas. Donc le Portugal tout à l'heure à 17h. Et puis tout de suite, le Lyonnais, le vieux Lyon, les traboules, ces plats délicieux qui font rêver le monde entier. Nous sommes en ligne avec Eric Emmanuel Schmitt, l'écrivain français le plus lu et le plus traduit dans le monde, mais surtout un pur Lyonnais. Qu'est-ce que vous mangez quand vous êtes là-bas, Eric Emmanuel ?
Alors des quenelles, bien sûr, du pâté en croûte. Je me souviens quand j'ai quitté Lyon, quand j'étais très très jeune prof, j'ai été nommé à Cherbourg et j'avais fait tous les magasins de Cherbourg, toutes les charcuteries pour leur demander s'ils avaient du pâté en croûte et ils me répondaient ben non, on en fait que pour Noël. Et c'est là que j'ai conclu, ben à Lyon c'est tous les jours Noël. Parce que oui, la charcuterie est absolument formidable. Moi, vous savez, quand j'ai des proches, des amis qui vont à Lyon, je les emmène au Hall Paul Bocuse, qui sont dans le quartier de la Part-Dieu. Mais vous savez, quand je les emmène au Hall Paul Bocuse, où je vais leur montrer la mère Poulard avec tous ses fromages, etc., etc., j'ai l'impression de leur ouvrir mon journal intime. La vérité de mon être, c'est les Hall Paul Bocuse, c'est-à-dire la gourmandise, la sensualité. Parce que c'est ça, Lyon. Il y a un contraste. Il y a toujours des contrastes. Je vous disais, il y a une rivière, il y a un fleuve, il y a une colline qui prie, il y a une colline qui travaille. Mais il y a aussi de la spiritualité, puisque toutes les grandes églises sont représentées à Lyon, je veux dire les églises d'Orient, etc., etc., depuis toujours. Il y a une grande spiritualité et en même temps une sensualité torride. Et au fond, Lyon, c'est toujours la recherche de l'équilibre à travers les contrastes de la vie.
Ouais. Alors, Olivier Pouls, c'est pas vous qui allez contredire Eric Emmanuel Schmitt, on est quand même bien là-bas.
Non, certainement pas, et certainement pas sur la gastronomie lyonnaise que j'adore moi aussi. Alors, on parle du solide, on pourrait aussi parler du liquide, puisque la ville est bordée par des vignobles fantastiques. Cette gastronomie lyonnaise qui doit une grande partie de son héritage, finalement, à des femmes. Et ça, c'est unique en France, c'est unique au monde. Ces femmes qu'on appelait les mères et qui sont indissociables de la gastronomie lyonnaise depuis le XVIIIe siècle. Et il y en a eu toute une série. Alors certaines sont très connues, d'autres un petit peu moins. La première, l'une des premières qui a été identifiée, s'appelait la mère Guy, qui, dès 1759, hein, c'est très précis, ouvre une petite guinguette en bord de l'eau. C'est un restaurant traiteur. Et puis, elle accueille des gens et elle fait une cuisine finalement très simple. Ce sont d'anciennes cuisinières de la bourgeoisie qui ont quitté les familles bourgeoises et qui vont se mettre à ouvrir leurs établissements et à faire une cuisine accessible, très abordable. Et d'ailleurs, cette guinguette de la mère Guy va devenir très célèbre 100 ans plus tard avec sa petite fille qui, elle, va obtenir 3 étoiles au guide Michelin quelques années plus tard, en 1936. Il y en a une autre qui est très célèbre, c'est la mère Bisolon, parce qu'elle était considérée, qu'on l'appelait la maman des poilus. Et elle, en dehors de faire à manger,
Elle était aussi d'une générosité absolument incroyable. Et dans le quartier de Perrache, elle nourrissait les soldats qui partaient ou qui revenaient du front. Et puis, évidemment, l'incontournable mère Brasier, comment ne pas parler d'elle, hein, évidemment, née en 1895, élevée dans une ferme. Elle s'est formée chez une autre mère célèbre, la mère Filiou. Elle lui succède au fourneau, puis ouvre son premier établissement à Lyon en 1921. En 1933, figurez-vous, qu'elle a deux fois trois étoiles au guide Michelin. Il faudra attendre des dizaines d'années plus tard pour voir d'autres grands chefs comme Alain Ducasse, Marc Vera et d'autres obtenir la distinction de deux fois trois étoiles. Alors, il y a trois étoiles pour son restaurant lyonnais et pour un autre établissement qu'elle a au col de la Luère. Aujourd'hui, le restaurant du centre de Lyon existe toujours. Hein, c'est Mathieu Vianney, un chef tout à fait brillant d'ailleurs, qui a deux étoiles au Michelin, meilleur ouvrier de France, qui a repris ce lieu emblématique.
Et pourquoi ça marche là-bas? Pourquoi à Lyon, il y a ce succès de ces bonnes tables familiales gourmandes? Pourquoi là?
Ben d'abord parce que Lyon est un carrefour, on l'a dit, il y a un carrefour extraordinaire entre de nombreuses civilisations. Il y a une histoire à Lyon. Aux alentours de Lyon, on trouve tout, on trouve tous les produits. Un petit peu plus au sud, on va trouver des légumes extraordinaires, on va trouver les poissons qu'on va faire remonter de la Méditerranée, on a les vins, on a les élevages, on a les Alpes, on a les fromages. Franchement, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser, j'ai envie de dire. Et donc, il y a eu cette tradition depuis toujours, tradition qu'on retrouve aujourd'hui dans les fameux bouchons, vous savez, ces restaurants
célèbres,
extrêmement typiques. Voilà, on y mange une cuisine abordable, pas cher, traditionnel, et c'est là qu'on se régale, par exemple, de saucissons briochés, de tablier de sapeur, ou pourquoi pas d'une bonne cervelle de canut.
Alors qu'est-ce que c'est ça, la cervelle de canut ?
Eh bien, la cervelle de canut, c'est pas de la cervelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de la cervelle de la viande, mais c'est une préparation fromagère. Et c'est une préparation fromagère qui est assez simple à faire. On pouvait la réaliser avec du fromage frais, des herbes, des échalotes, sel, poivre, un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre. Et alors, D'où ce nom de cervelle de canut, Nathalie,
oui,
vous voulez poser la question.
Je voulais vous poser la question parce que c'est très péjoratif pour les canuts, en fait. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de cervelle.
Si on n'aime pas la cervelle.
Il y a deux explications à ça. L'une prétend que effectivement la bourgeoisie regardait les canuts avec un peu de défiance et avec un peu de condescendance, et en regardant cette espèce de préparation fromagère, elle disait regardez, ça c'est de la cervelle de canut.
C'est une entrée, en fait.
C'est plutôt une entrée qu'on tartine. Et l'autre explication, c'est que les canuts n'avaient pas les moyens de se payer de la cervelle d'agneau lorsqu'ils mangeaient et qu'ils faisaient cette préparation qui pouvait peut-être de loin y ressembler, qu'on disait, ça c'est de la cervelle pour les canuts.
Merci Olivier Pouls, on continue notre périple lyonnais savoureux gourmand dans un instant, juste après Boulevard Désert et Ellie Jay, Emmène-moi sur Europe 1.
De sable perdu dans l'océan, j'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber.
suis comme rempli d'espoir. Ce matin je renais, emmène-moi près du phare. Allons jusqu'au rocher, emmène-moi voir la mer. Fais-moi voir l'océan, emmène-moi dans les airs. Aime-moi dans le vent, emmène-moi voir la mer. Fais-moi voir l'océan, emmène-moi dans les airs. Aime-moi dans le vent.
Boulevard Désert et Ellie J, emmène-moi sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes dans un grand moment de voyage comme chaque après-midi sur Europe 1 entre 16h et 18h. Tout à l'heure le Portugal, maintenant Lyon. Comment bien profiter de cette ville qui a complètement changé d'image? C'est vrai qu'avant, on ne se disait pas, on va passer à Lyon, passer le week-end. Maintenant, tout a changé. Lyon est devenue belle, agréable, plaisante. Jean-Bernard, comment on fait pour en profiter?
Déjà, je veux dire que j'envie ces Lyonnais, heureux les Lyonnais. Ils sont heureux en patrimoine, ils sont heureux en gastronomie, ils sont heureux en culture, ils sont heureux en monument. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de ça, à moins d'une heure de chez eux, ils ont accès à de véritables trésors, Philippe.
Ah oui, c'est-à-dire
oui. Alors, il y en a un. Alors, on va faire une petite devinette. À moins d'une heure de route, 45 minutes exactement, ils peuvent s'évader dans une région où on aime la cuisse. Ça devrait vous parler, ça, Nathalie, non?
Je voulais dire. Non, mais je vous permets pas.
Un petit indice supplémentaire.
Les cuisses de grenouille, des
oui,
dombes.
Oui, voilà, super, bien vu, Olivier. On est dans la région qu'on appelle la Dombe. C'est la route qui va à Bourg-en-Bresse.
Ah oui.
C'est à 30 km
on
seulement.
On ne dit pas les Dombes?
On dit la Dombe.
Ah bon,
ouais. Alors c'est au pluriel, mais ça se dit la Dombe. Une magnifique région, pas très connue, justement, y compris des Lyonnais, mais ils aiment bien aller y manger des cuisses de grenouille, même si effectivement.
Il
n'y
en a plus beaucoup. Hein.
Alors voilà, il n'y en a plus beaucoup, et surtout les cuisses de grenouille qu'on déguste là-bas, elles sont importées de Turquie. Elles sont importées fraîches et vivantes, elles sont travaillées sur place, mais ce n'est plus des grenouilles originaires de ces étangs. Donc c'est vrai qu'on y va quand même pour ces restaurants spécialisés qui proposent la cuisse de grenouille au menu. C'est vrai que j'ai goûté, j'ai pas trouvé ça génial, même en persillade. J'ai même goûté une tarte aux cuisses de grenouille, Olivier. Je sais pas si ça vous parle, ça.
Tarte aux cuisses.
Moi, j'adore les cuisses de grenouille. Mais effectivement, il faut des grenouilles de très grande qualité. C'est pas facile à trouver.
C'est pas facile à trouver. Voilà. Donc, je me suis contenté d'une goujonnette de carpe, ce qui est quand même aussi la spécialité locale. Donc, c'est des Lyonnais qui m'ont donné ces tuyaux-là et je me suis régalé. Voilà.
Éric Emmanuel, vous connaissez les grenouilles de la Dombe?
Oui, tout à fait. Mais pas loin de Lyon, il y a aussi un petit village qui s'appelle Pérouge, où on fait une tarte. C'est un village médiéval absolument magnifique, où on a tourné beaucoup de films, genre Trois Mousquetaires, et il y a une tarte au sucre à ne pas rater.
Alors, Pérouge, c'est vrai que c'est une superbe petite cité médiévale. À seulement 30 km de Lyon, je précise, c'est vraiment à côté. On peut y aller à la demi-journée. Cette petite ville fait partie du cercle très fermé des plus beaux villages de France. Et c'est vrai qu'une fois qu'on entre dans ce bourg, on comprend vite pourquoi on est propulsé dans une autre époque avec des bâtisses qui datent du 15e et 16e siècle. C'est vraiment une autre ambiance. N'y allez pas en talons hauts, Nathalie, parce que toutes les rues sont en galets, donc on risque de se tordre les pieds. Et c'est vrai qu'il y a de super adresses. Olivier, je pense que ça devrait vous parler aussi. Les fameuses galettes au sucre, c'est la grande spécialité de Pérouge.
Galettes et tarte au sucre. Alors moi qui suis du Nord et de Belgique, on a aussi une tarte au sucre qui est pas mal.
Et tout à fait.
Et Éric Emmanuel Schmitt, vous confirmez, vous adorez.
La tarte au sucre, oui, et puis il faut absolument manger aussi une tarte aux pralines.
Ah oui, les pralines.
C'est aussi une des spécialités de la région.
Alors, une autre petite escapade.
Ouais, alors la Dombe, attendez, j'ai pas fini sur la Dombe parce que j'ai beaucoup aimé ce coin-là.
Et... C'est vrai que l'émission est sur Lyon.
Oui, mais c'est vrai que les Lyonnais aiment ce genre d'escapade et c'est un petit secret qu'ils confient plus ou moins bien. La Dombe, c'est aussi réputée pour l'observation des oiseaux, mon cher Philippe. Vous savez que j'aime bien l'observation ornithologique et la Dombe, il y a énormément d'étangs et c'est là qu'on peut voir des espèces migratrices ou des espèces qui viennent nicher. Et il y a d'ailleurs un parc ornithologique à Villard-de-Dombes qui est très réputé. C'est un incontournable lorsqu'on va dans cette région.
Très bien. Alors, bon, puisque vous êtes sur les escapades, allons-y.
Il y en a une petite autre. Je sais que les Lyonnais ont un rapport un petit peu ambigu avec cette région. C'est le Beaujolais, tout simplement. Et c'est vrai que le Beaujolais, ils n'en parlaient pas trop. Ils regardaient ça d'un petit peu de haut. Moi, j'adore la route des crues du Beaujolais. C'est à simplement 30 km. Ça commence à Villefranche-sur-Saône. C'est vraiment à côté, direction nord. Il y a un super parcours œnologique.
ponctué de dégustations dans les chais et caveaux des villages. Vous en saurez plus sur toutes les appellations locales, Brouilly, Chiroux, Villiers-Morgon, Fleury, Moulin-à-Vent. Et pour vous, Nathalie, l'appellation Saint-Amour.
Oh, j'adore, c'est vous parlez beau, à ça. Mon cœur tous les jours.
Et Éric-Emmanuel Schmitt, qu'est-ce que vous buvez quand vous allez dans un bouchon lyonnais?
Moi, je suis plutôt Côte-du-Rhône que Beaujolais. Mais en tout cas, je conseille vraiment une balade dans le Beaujolais parce qu'il y a une autre particularité des monts du Beaujolais, c'est la pierre, c'est une pierre dorée. Et tous les villages sont en pierre dorée. On a l'impression que que les maisons sont construites en pain d'épices. On a envie de les manger.
Ah oui, belle image, très belle image.
C'est la région des pierres dorées, ça s'appelle. Ouais, effectivement.
C'est vrai qu'il y a toujours ce choix. Est-ce qu'on prend les vins du Nord et donc du Beaujolais ou est-ce qu'on descend dans le Sud avec les côtes du Rhône qui sont aux portes de Lyon, Condrieu, Crozes-Hermitage, Hermitage.
Mais il y a vraiment ce qui m'a frappé à Lyon, c'est cette relation ambivalente qu'ils ont vis-à-vis du Beaujolais. C'est je t'aime, moi non plus. C'est un petit peu ça.
Le Beaujolais est un peu en train de se faire rattraper par la Bourgogne aujourd'hui. La Bourgogne aimerait bien l'intégrer. D'ailleurs, on le voit, certains vins du Beaujolais ont droit à l'appellation Bourgogne. C'est vrai qu'il y a une proximité avec la Bourgogne qui est peut-être plus forte. Et donc les Lyonnais sont peut-être un peu jaloux, qui sais-je.
Exactement.
Bon, on va arrêter un petit peu avec les dégustations et la boisson, sinon on va finir par une mauvaise réputation. Un peu d'exercice, un peu de nature.
Ouais, dans le Beaujolais, il y a un super site qui s'appelle le Lac des Sapins. Je ne sais pas si Éric Emmanuel le connaît. C'est un paradis nature. C'est un super plan d'eau qui a été aménagé. C'est vraiment un poumon vert. Les Lyonnais aiment y aller. C'est une astuce qu'on m'a donnée sur place. Et l'avantage aussi de ce plan d'eau, c'est que c'est une baignade biologique. L'eau y est complètement pure parce qu'il y a un système d'épuration et de filtration complètement naturel. Il n'y a pas du tout de produits chimiques. L'eau, elle est filtrée par les plantes, les algues et les roches. Et autour de ce plan d'eau, on peut faire énormément d'activités, de loisirs, kayak, paddle. Il y a des zones de plage gazonnées, il y a des jets massants. Je suis sûr qu'on y croisera Olivier Pouls cet été.
Certainement. Hein.
Très bien.
Soulagé.
Merci beaucoup Jean-Bernard pour donc ces petits conseils de balade autour de Lyon. Éric Emmanuel Schmitt, c'était un bonheur de vous avoir en ligne pendant toute cette heure. Vous nous avez vraiment, vraiment donné envie de Lyon et de ses environs. Vous en parlez avec une telle saveur que c'est irrésistible.
Bah écoutez, saveur et nostalgie.
Merci beaucoup Éric-Emmanuel Schmitt. Je rappelle que le 10 août prochain, on vous retrouvera au festival de Sisteron. C'est un festival en plein air. Vous allez reprendre votre succès de l'année dernière. Madame Pilinska est le secret de Chopin. Vous y jouerez l'un de vos textes, hein, si mes informations sont bonnes.
Exactement.
Ouais, accompagné
avec un grand pianiste qui s'appelle Nicolas Stavy. Et ensuite, je reprendrai ça pendant tout le mois de septembre. À Paris, au théâtre Rive Gauche, à Montparnasse.
Du 4 septembre au 4 octobre, si mes infos sont bonnes.
Exactement.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Éric-Emmanuel Schmitt.
Merci, bonne journée.
Les amis, on lève le pied quelques instants, le temps de s'informer, mais après on repart très très vite. Juste après le flash de 17h sur Europe 1, je vous emmène dans un pays délicieux. Délicieux pour l'accueil, pour la simplicité, pour le naturel exceptionnel de ses habitants. 3000 heures de soleil par an, 850 km de plages magnifiques baignées par l'océan Atlantique. Nous partirons au Portugal. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Marguerite Lefebvre.
La priorité absolue sera donnée à l'emploi et à la lutte contre le chômage. Jean Castex en fait son objectif principal pour les 18 prochains mois. Il l'a martelé tout à l'heure devant les députés. Le Premier ministre a prononcé son discours de politique générale. Une heure de discours et pas mal d'annonces sur l'emploi, donc notamment l'emploi des jeunes, avec ses exonérations de charges pour les entreprises qui embauchent des jeunes de moins de 25 ans jusqu'à 1,6 SMIC. 40 milliards d'euros seront débloqués pour aider l'industrie dans le cadre d'une relance plus verte. C'est également l'objectif du gouvernement. Écoutez le Premier ministre.
Ce plan de relance, mesdames et messieurs les députés, sera un accélérateur puissant de la transition écologique. Ce gouvernement veut gagner la bataille pour le climat, la protection de la nature et la biodiversité. Faire de l'économie française l'économie la plus décarbonée d'Europe. L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte.
Dans le détail, Jean Castex annonce 20 milliards d'euros pour la rénovation thermique et le développement des technologies vertes, des transports verts, notamment les véhicules électriques, le train et le vélo. Sur toutes ces questions de relance, de climat, il faudra s'appuyer encore plus sur les territoires, notamment sur les départements qui vont désormais concentrer tous les recrutements de la fonction publique. C'est l'une des grosses annonces de ce discours. Jean Castex lance une nouvelle étape dans la décentralisation du pays. Il annonce par ailleurs le retour d'un commissariat au plan. Autre point abordé par le Premier ministre, la lutte contre le séparatisme. C'est une préoccupation majeure du gouvernement. Un projet de loi sera présenté à la rentrée. Dans la gestion du quotidien et des incivilités, Jean Castex promet de la fermeté. Il annonce la création de juges de proximité. Ce discours de politique générale, cette feuille de route très fournie, on va y revenir dans le détail, page spéciale dès le début du journal de 18h. Et puis à 18h20, on demandera à Olivier Faure ce qu'il en pense. Le premier secrétaire du Parti Socialiste sera l'invité de Thierry Dagiral. Les mesures sanitaires n'aident pas, mais à elles seules, elles n'expliquent pas la désertion depuis ce matin des magasins. Premier jour des soldes très calmes, trop calmes pour les commerçants qui espèrent toujours écouler leur stock après 2 mois de confinement. À l'étranger, Washington annonce de nouvelles sanctions contre la Chine, sanctions ciblées contre certains employés du géant Huawei. Voilà ce qu'annonce le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les États-Unis accusent l'entreprise d'espionnage industriel. Enfin, c'est une réouverture après 4 mois d'arrêt forcé. Disneyland Paris a rouvert ses portes ce matin. Le parc d'attractions accueille de nouveau les visiteurs, moins qu'avant, la jauge est réduite et des visiteurs masqués. Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et les enfants de plus de 11 ans. 17h03 sur Europe 1, c'est le retour de Philippe Googler.
Merci Marguerite Lefebvre, l'info revient tout à l'heure à 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et si on partait, deuxième heure, c'est l'été et c'est donc, vous le savez, le moment de lâcher prise. Tous les après-midi sur Europe 1, un grand voyage aux quatre coins de la planète. On se laisse faire, on se détend. Décollage maintenant pour le Portugal.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et j'ai envie de vous emmener aujourd'hui dans un pays qui fait du bien. Un pays qui est pas si loin, et pas à l'autre bout du monde, mais dans lequel on se sent ailleurs. Alors, il y a le climat, les paysages, mais il y a surtout les habitants. Il y a là-bas une forme de simplicité, de naturel assez unique. C'est un endroit où on a l'impression d'être enfin soi-même, à la cool, où les relations semblent plus simples. Je vous emmène aujourd'hui au Portugal. Alors moi j'avais une idée toute faite qui me trottait dans la tête à propos du Portugal. C'était celle des lavandières. Et tout ça à cause de ça.
Avez-vous vu une lavandière comme il y en a au Portugal, surtout celle de la rivière de la ville de Setúbal.
Alors celui qui chante, c'est Luis Mariano. Alors bon, oui, ça date pas d'hier, mais je sais pas pourquoi cette chanson que ma mère écoutait il y a bien bien longtemps m'a marqué et je peux vous la chanter les yeux fermés. Bref, à peine arrivé au Portugal, je voulais absolument aller voir les lavandières. Donc, évidemment, il y avait quelque chose en moi qui me disait qu'on allait sûrement me répondre qu'il y avait la machine à laver depuis un moment et que les lavandières, il n'y en avait plus trop. Et bien, surprise, il y a encore des lavandières au Portugal. Je suis allé musarder un peu dans un quartier de Porto, à Afourada, très exactement, au lavoir municipal. Alors, pour moi, un lavoir, c'est un joli endroit avec des vieilles pierres polies par le temps, avec des belles fontaines généreuses. Et là, je vois en face de moi un gros bloc de béton, une sorte de halle couverte, sans charme, un peu taguée, à côté d'un parking. Voilà, on n'est pas très Luis Mariano style, mais j'entre. Et là, tout à coup, c'est le paradis. Je me retrouve d'un coup dans une vaste salle remplie de buées, avec des sons d'eau, de linge qu'on tape, et toute une bande de lavandières, il y en a une bonne trentaine, et c'est comme dans la chanson, elles tapent avec leur battoir, elles papotent, elles rigolent, elles chantent, et quand je dis qu'elles chantent, chantent vraiment, c'est très joyeux, il y a une grosse ambiance. Alors, je suis aux anges, parce que
Je leur demande ce qui se passe et elles me répondent, ben voilà, t'es dans le quartier de la Fourada, ici, c'est normal, on fait tout en chantant. Et puis moi, ça fait 69 ans que je lave mon linge ici, qui me dit. Et donc voilà, il y a une super ambiance. Alors les lavandières qui sont autour de moi, elles ont le visage rayonnant, elles chantent sans cesse, c'est même difficile d'avoir une conversation entre deux refrains. Et donc je leur demande pourquoi elles viennent toutes ici. Et j'ai adoré les réponses. Alors les réponses c'était 1. On aime se retrouver entre nous, entre copines, c'est très sympa, tu vois, on passe 2-3 heures ensemble à laver le linge. Ça, première réponse. Mais bon, je leur réponds, mais on n'est pas obligé de laver du linge pour se retrouver entre copines. Deuxième réponse, bah, c'est la tradition. Il y en a une qui me dit donc que ça fait 69 ans qu'elle vient là et que c'est surtout là qu'elle apprend ce qui se passe en ville. Donc en gros, je comprends que c'est the place to be pour avoir les dernières rumeurs sur le quartier. Et puis, en 3, je leur demande quand même, mais quel est l'intérêt de laver le linge à la main alors qu'on fait des très bonnes machines à laver aujourd'hui ? Alors il y a une réponse technique, c'est que les machines à laver c'est bien, voilà, mais quand il s'agit de vraiment récurer, de brosser, d'enlever les grosses taches, ça marche pas bien, alors qu'ici on peut frotter, frotter et frotter, et ça s'en va. Mais en fait, moi je pense que la raison réelle... Ce que je vais comprendre lentement, à coup de petites confidences de lavandière, c'est que pour rien au monde, elle ne manquerait le rendez-vous du lavoir. Car ici, il n'y a aucun homme. C'est donc le moment où elles peuvent se lâcher loin des maris, loin des petits appartements. C'est l'endroit du quartier où les femmes peuvent échanger leur joie et leur peine entre elles. Et ça, aucune machine à laver au monde ne le remplacera jamais.
16h-18h, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
On poursuit nos aventures au Portugal dans quelques instants. Le Portugal que tout le monde a envie de voir, mais aussi le Portugal plus profond, plus reculé. On parlera bon plan, gastronomie, aventure. A tout de suite sur Europe 1. Ça y est, on est bien parti déjà. On est au Portugal.
On est même arrivé là.
Ouais, on est bien. On est bien. On est au Portugal avec donc Olivier Pouls, que vous venez d'entendre, notre chroniqueur gastronomique culte, avec Nathalie Elal, auteure et grande voyageuse et chercheuse de bonnes infos. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors, on resitue un petit peu le Portugal, donc évidemment à gauche de l'Espagne.
Alors, on pose la carte de l'Europe à plat. Ouais. C'est tout en bas, dans le coin à gauche. Ouais. C'est voisin, effectivement, de l'Espagne. Et en face du Portugal, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a simplement l'océan Atlantique. Absolument. Voilà, donc on est vraiment au bout du bout.
Avec 850 km de plage sur l'Atlantique.
Énorme. Et c'est la taille d'une bonne grosse région française. 550 km du nord au sud, 220 km d'est en ouest.
Donc, ça, c'est pas grand.
Non, c'est pas très grand. Donc voilà, ça, c'est notre petit Portugal. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme richesse à découvrir ?
Absolument. C'est ce qu'on va faire jusqu'à 18h. Et nous avons en ligne, depuis Lisbonne, un homme que l'amour a amené au Portugal. Il est journaliste, il vit là-bas depuis 13 ans. Il a beaucoup voyagé dans sa vie, son père était diplomate, il a fait le tour du monde. Mais c'est au Portugal qu'il a décidé de s'installer en proclamant qu'il ne reviendrait plus jamais en France, ce qui est quand même lourd. On va lui demander des explications. Bonjour Jérôme Pain.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde, comment allez-vous ?
Bonjour. Bien. Qu'est-ce que vous aimez tant au Portugal ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oula, on a combien d'heures ?
Une.
Alors, très bien. Non, mais le Portugal, c'est, je pense que vous l'avez parfaitement résumé en début d'émission. C'est avant tout un pays, il y a quelque chose de magique, c'est un pays où on se sent bien. Ouais. On arrive, on se sent bien. Le pays est beau, le pays est petit, le pays est à taille humaine. C'est un pays qui est extrêmement riche et c'est surtout une population formidable. Quoi. Ouais. Ce sont des gens qui sont accueillants, qui sont gentils et qui sont simples. Alors je sais que ça paraît aujourd'hui un peu bizarre, ce genre de qualité, mais c'est tellement bon d'avoir affaire à des gens simples qui vont vous accueillir tout simplement d'une façon humaine, gentille, ouverte, qui seront curieux, qui auront envie de discuter avec vous, de vous offrir à manger, alors parce que c'est aussi un pays où on mange très très bien. Mon ventre, d'ailleurs, on peut en témoigner. Et sinon, c'est un pays où on peut faire beaucoup de choses très rapidement parce que encore une fois, la géographie fait qu'on est
sur la simplicité des gens. C'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça au monde où les gens
Quand on dit simple, ça fait un peu, on peut penser presque niais, mais c'est pas ça du tout. C'est simple, généreusement, et c'est tellement, la relation avec les autres est tellement naturelle que tout d'un coup, on a l'impression de se retrouver soi-même, d'être enfin soi, sans artifice, sans chichi, et c'est tout à fait incroyable là-bas.
On est
là-bas.
Parfois bluffé par la gentillesse des gens, et nous qui venons de France et qui n'avons plus toujours cette habitude, il faut bien le reconnaître, on se dit parfois, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est naturel.
Oui.
En fait, moi, j'ai l'impression, quand je suis au Portugal, d'être en famille.
Voilà.
Un côté familial qui est vraiment super touchant.
Exactement, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, Jérôme, tout le monde est d'accord.
Oui. Bon, ben, c'est très bien, ça commence bien. Mais c'est vraiment ça, c'est ces valeurs, en fin de compte, qu'on a un petit peu oubliées parce que malheureusement, dans nos pays dits développés, elles disparaissent. Ouais. Mais c'est aussi une grande solidarité. J'ai toujours été extrêmement surpris au Portugal quand il y a des catastrophes, que ce soit des incendies, que ce soit pendant le Covid ou ailleurs, de voir que les gens sont extrêmement solidaires entre eux. Solidaires et aussi qu'ils mettent la famille, vraiment la valeur famille au-dessus de tout. Et ça crée beaucoup d'entraide et ça crée cette ambiance-là qui est vraiment sympathique.
Alors vous habitez Lisbonne. Pourquoi est-ce qu'on aime Lisbonne en général?
Ah, parce que Lisbonne, c'est une ville magique, c'est une ville qui est chargée d'histoire déjà, c'est une ville magnifique, et c'est une ville, quand on l'apprivoise, quand on se promène dans ses ruelles, on se rend compte de toute sa gloire, de tout son passé, de toute sa force, de toute sa richesse. Et on traverse les époques, on traverse l'histoire avec un grand H en se baladant dans les petites rues de Lisbonne. Parce qu'il ne faut pas oublier que si aujourd'hui le Portugal est considéré comme un petit pays, un peu au bout de l'Europe, un peu oublié, souvent caricaturé, etc., etc., à un certain moment de l'histoire de l'humanité, ils se sont quand même partagé le monde avec les Espagnols. Hein. Le Portugal, ce sont les grandes découvertes. C'est tout ce qui nous a amené au niveau des routes commerciales, c'est une grande richesse, c'est une grande royauté, etc., etc. Et donc Lisbonne, vous trouvez plein de traces, j'allais dire de stigmates, parce que c'est une ville aussi qui a vécu, qui a souffert le temps. Et au travers de ces vieux palais, au travers de ces ruines, de ces ruelles, de sa chaussée particulière, on est projeté dans l'histoire. Et en plus de ça, je termine juste là-dessus parce que moi, je travaille dans l'image. Quand on est sensible à la beauté, à l'esthétique visuelle et surtout à la lumière qui est unique à Lisbonne, on ne peut que tomber amoureux de cette ville.
Voilà. Ouais. Le faste du Portugal. Je dirais entre guillemets à la grande époque, hein, vraiment entre guillemets, et vraiment se saute aux yeux quand on est là-bas, et c'est très très chouette. Alors on parle beaucoup de Lisbonne, on parle souvent de la côte, on parle moins souvent du centre du Portugal, et c'est pas inintéressant pourtant.
Ah oui, bah alors le centre, moi c'est une de mes régions préférées, l'Alentejo,
ouais.
Littéralement au-delà du Tage, parce qu'il faut aussi, ce qui est intéressant pour comprendre le Portugal, c'est que c'est un pays qui est issu d'un brassage de cultures incroyable. Il y a eu les Romains, il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Grecs, il y a eu les Maures, il y a eu les Visigoths, il y a eu les Français, il y a eu les Anglais, enfin bon. Et donc, si vous voulez, il y a plein de noms de régions, de noms de quartiers de Lisbonne qui ont une consonance, par exemple, arabe, comme l'Alfama, l'Algarve, l'Alentejo, donc cette région du centre. Et cette région du centre, c'est pour moi, c'est une de mes préférées vraiment, parce que ce sont des petites collines à perte de vue, avec ça et là des chênes lièges, des petits hameaux, des maisons blanches, et une région où on mange très très bien, et c'est vraiment très très beau. Et au-dessus, vous avez le Douro,
ouais,
qui est encore autre chose, et là, ce sont les vallées encaissées, les vignobles, la région où on fait le fameux vin de Porto, et c'est très très brut, très sauvage. Et encore une fois, il faut faire que quelques centaines de kilomètres et on change d'un pays à l'autre, j'allais dire.
Ouais. Jérôme, on continue à explorer le Portugal avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1, et même jusqu'à 18h.
16h, 18h, et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours entre 16h et 18h, nous partons et nous sommes aujourd'hui au Portugal.
Europe 1, Philippe Googler.
Lors de mes périples en train, pas comme les autres, au Portugal, je me suis retrouvé dans une région très très reculée. C'est une région qui s'appelle Trás os Montes, ce qui signifie derrière les montagnes, une des régions les plus reculées du Portugal. Et là, c'est changement de décor. On est loin de Lisbonne, très loin des touristes. J'ai fait quelques centaines de kilomètres, mais j'ai surtout l'impression d'avoir changé d'époque.
J'ai ce sentiment un peu étrange d'être en Europe, mais il y a longtemps. Alors, je vois dans un champ un couple d'agriculteurs en train de labourer, et ils labourent avec un âne. C'est l'âne qui tire la charrue. Alors qu'il y a quand même un tracteur garé à une cinquantaine de mètres. Donc, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous préférez labourer avec un âne plutôt qu'avec un tracteur? Et l'agricultrice me répond en rigolant, bah oui, c'est mieux, le travail est plus précis. Je dis, mais quand même, votre charrue, elle date de quand? Oh, bah, ça en rigolant, oh, bah, ça date de l'Antiquité. Et visiblement, ça se discute pas. L'âne, c'est mieux que le tracteur, point. J'insiste un peu quand même et je demande à l'agricultrice, en plaisantant, si l'âne obéit bien, parce que ça a quand même la réputation d'être un peu bourricot, un âne. Réponse, ah ben il obéit mieux que mon mari. Donc voilà, un dialogue de sourds, mais marrant. Et puis on continue comme ça, d'un air léger. Et se produit alors une grosse surprise. Il y a une voiture qui s'arrête près du champ. Un jeune homme descend, bonne allure, décidé, et il vient voir l'âne. Parce que le couple d'agriculteurs a constaté que leur âne ne mangeait plus très bien. Il mangeait difficilement ces derniers temps. Ils ont donc appelé un spécialiste. Eh bien, tenez-vous bien, le spécialiste, dans cette région qui a l'air un peu enclavée, loin de tout, le spécialiste, il est dentiste. Dentiste pour âne. Oui. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup sur cette planète. Mais les agriculteurs ont pensé que si l'âne ne mangeait pas bien, c'est qu'il avait un problème de dentition. Et dans cette région, où l'âne fait partie du quotidien de beaucoup d'agriculteurs, un dentiste pour âne, eh ben c'est normal. Et j'ai vu de mes yeux l'âne qui tirait la charrue, emmené dans une étape pour être soigné. Il avait une sorte de petit picot sur une dent qui le gênait. Et le dentiste a donc limé, avec le matériel adéquat, limé le petit picot. C'est très étonnant. Et le Portugal, c'est ça. C'est l'impression d'être ailleurs, parfois dans une autre époque, mais jamais très loin de la modernité.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Gougli.
Oui, nous sommes dans ce pays que j'adore, hein, le Portugal. Là, dans cette région, Jérôme Pain, je rappelle que vous êtes journaliste installé au Portugal depuis bien longtemps et que vous n'avez pas l'intention de rentrer en France parce que vous adorez ce pays, vous l'avez bien dit. Cette région très reculée du Portugal, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ânes et il y a une vraie gentillesse pour ces animaux. Ce n'est pas l'animal de trait qu'on maltraite.
Non, pas du tout. En fait, dans le Trás-os-Montes, donc derrière les montagnes, qui est donc à la frontière nord-est avec l'Espagne, l'âne est effectivement encore utilisé et fait partie d'une intégrante des outils de travail à la ferme. Et évidemment, on respecte son outil, on respecte son animal, donc c'est plus qu'un tracteur, et ça m'étonne pas du tout qu'il vous ait dit qu'il préférait travailler avec l'âne qu'avec le tracteur. Quoi. Ça fait vraiment partie du décor, mais c'est pas un artifice, c'est pas un gadget, parce que l'âne, évidemment, il est utilisé pour labourer les champs, mais il est aussi utilisé pour transporter les fagots de bois que la petite mamie va aller chercher dans la forêt. Il est aussi utilisé pour transporter les bidons d'eau, pour aller arroser ou le potager ou à boire aux animaux. Donc c'est vraiment un vrai outil.
Ouais. Et en plus, alors, c'est une région absolument formidable où chaque fois que vous allez chez quelqu'un, vous êtes obligé de manger. C'est impossible de ne pas manger ou boire chez les gens. Et moi, ils m'ont fait goûter un vin, peut-être vous le connaissez, un vin absolument incroyable. Ils vous présentent ça comme du vin, donc vous buvez un bon verre, mais il titre à combien? Il doit être titré à 15 degrés, 18 degrés, je ne sais pas. Il vous rend saoul tout de suite.
Ah oui, ça c'est vraiment, c'est les vins un peu traîtres, les vins du soleil, c'est-à-dire que vous avez soif, il fait très chaud et vous vous désaltérez, effectivement les portes sont ouvertes donc les gens vous accueillent facilement, en plus dès qu'il s'agit de boire un coup ou de manger un petit truc au Portugal, ce ne sont pas forcément les derniers, et encore plus quand il y a des étrangers, histoire de leur montrer qu'on mange bien, il est inconcevable de repartir de chez une ferme portugaise sans avoir bu un coup et mangé un coup, ça serait une faute gravissime. Donc au bout d'un moment, le petit godet, le deuxième godet, le troisième godet, bah, vous sortez, vous êtes en forme, quoi. Et voilà. Mais non, c'est effectivement, ça fait partie de encore une fois de cet accueil et de cette, ouais, de cette gentillesse, quoi.
Et alors, il y a un truc particulier, c'est que le Portugal, on en a une image comme ça de pays un peu parfois avec une atmosphère un peu surannée, un peu 70s. Et en même temps, il y a une vraie modernité partout.
Oui, exactement. Juste pour terminer sur le côté nourriture, il faut savoir que moi, à chaque fois, quand je dois faire mon travail de journaliste et partir en reportage dans le Nord, je ne peux pas rentrer de voyage sans avoir dans le coffre de la voiture un carton avec des tomates, des salades, de l'huile d'olive, etc. Et tout ça, c'est cadeau. Hein. Il faut absolument qu'on ramène les victuailles. Donc pour le côté suranné, oui, effectivement. En fait, vous voyagez dans le temps un petit peu, que ce soit à Lisbonne ou dans le Portugal. Vous pouvez vous retrouver dans les années 70, voire 40-50, quand on est dans le Trajo dos Montes avec les ânes. Et après, à Lisbonne, vous avez des quartiers totalement futuristes, comme le Parc des Nations, où a eu lieu l'Expo Universelle, avec des immeubles ultra modernes. Vous avez aussi au Portugal, depuis plusieurs années, pendant encore au moins une dizaine d'années, le Web Summit, la Mecque de la rencontre high-tech annuelle. Donc c'est des paradoxes comme ça, c'est un pays extrêmement contrasté dans son histoire, dans sa façon d'être, c'est vraiment intéressant.
Eh bien merci beaucoup Jérôme de nous avoir raconté votre Portugal, c'est super, on a envie de vous rejoindre aussi. Je vous souhaite une longue et heureuse vie là-bas.
Ben merci, c'est très gentil, j'y suis bien, je pense que je vais y passer un moment, mais venez, vous êtes toujours les bienvenus en tout cas, ils en ont besoin, venez les aider pour le tourisme.
Bon alors Jérôme, si vous voulez, est-ce que vous avez un petit peu de temps devant vous ?
Ah ben, pour vous Philippe, tout le temps.
Bon alors vous restez avec nous parce que vous nous parlez tellement bien du Portugal, on va vous garder encore un petit peu en ligne, mais on va souffler un petit coup avec Madre Deus, obligatoire.
Ah très bien, très bien.
Pastor.
Já deixou.
j'adore. Madre Deus, un groupe de musique portugais, bien sûr, avec cette espèce de mélancolie, de nostalgie portugaise. Le nom de Madre Deus, d'ailleurs, vient d'un quartier de Lisbonne, autour de l'église de Madre de Deus, à l'est de l'Alfama, qui est un des quartiers les plus populaires et plus célèbres de Lisbonne. Et c'est ce titre, Madre de, au Pastor, qui les a fait connaître en France dès les années 90.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, j'aime bien cette petite musiquette voyageuse, nous sommes toujours au Portugal, en ligne depuis Lisbonne, Jérôme Pain, et à mes côtés, Nathalie Elal, avec toujours des histoires croustillantes sur tous les pays du monde.
Oui, puis là, ça croustille vraiment, vous allez voir.
Ouais.
Oui, je vais vous parler.
Faites peur.
Oui, vous croyez ? Je vous emmène au couvent, Philippe. Ah. Vous devriez être rassuré.
Ben, pas totalement avec vous.
Non, bon, je vais vous faire découvrir les nonnes pâtissières des couvents portugais. Alors, nous sommes au XVIIe et XVIIIe siècle. Il faut vous dire que le couvent, c'est le lieu à la fois de toutes les frustrations, mais aussi de toutes les gourmandises. Alors, on y trouve beaucoup de jeunes filles à la vocation forcée. Pourquoi forcée ? Parce qu'on avait généralement marié l'aînée de la famille, donc il n'y avait plus de dot pour la deuxième ou la troisième, donc on flanquait les filles au couvent. Il fallait bien s'en débarrasser. Et il y a un couvent aux portes de Lisbonne, le couvent d'Odivelas, qui a en particulier défrayé la chronique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Parce que les nonnes se parent de fleurs, de bijoux précieux. Elles ont des rendez-vous galants, figurez-vous, avec même des visiteurs de marque comme le roi Alfonso VI lui-même, qui est amateur de très jeunes filles. Donc les nonnes chantent en compagnie de leurs amants des chansons paillardes, elles dansent de manière indécente, elles s'exhibent.
Les nonnes
Oui, les nonnes, absolument. Elles s'exhibent en habit masculin, c'est un vrai folklore, c'est la teuf au couvent. Je ne vous raconte pas.
La teuf au couvent. Et c'est un super titre, ça.
Le couvent qui est aussi réputé pour l'excellence de sa table. Pourquoi ? Parce que les nonnes, qui sont trop délicates pour travailler dans les champs, eh bien, elles élèvent des poules. Que donnent les poules ? Des œufs. Donc, avec les œufs, surtout les jaunes, elles confectionnent des pâtisseries. Et puis, avec les blancs, eh bien, elles amidonnent leurs cornettes, histoire quand même d'en porter une de temps en temps pour garder les apparences un peu sauves. Et de là, de cette frénésie pâtissière, viennent les fameux pastéis de nata, les queijadas, qui sont des sortes de cheesecake portugais, et puis autre tunisinho do céu, l'art du ciel, l'art céleste, un délice sucré, évidemment. Alors, évidemment, les couvents deviennent petit à petit des bordels de luxe, hein, faut bien
non,
le dire.
Non, mais vraiment ?
Des bordels, mais oui, vraiment, non, mais c'est, je
et
vous raconte pas des blagues.
Et c'était validé par les autorités de l'église ?
Alors c'était justement, ça faisait scandale à l'époque. Et puis on arrive à peu près à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et puis il y a un homme qui lui déteste généralement les jésuites, les ordres religieux. Il s'appelle le marquis de Pombal, c'est l'homme fort du pays. Il va dissoudre les ordres, fermer la plupart des couvents et tout rentre dans l'ordre, c'est le cas de le dire.
Ah c'est incroyable cette histoire. Vous connaissiez cette histoire Jérôme ?
Je connaissais, sans tous les détails, hein, bravo, mais je connaissais effectivement l'origine de la pâtisserie portugaise, qu'on appelle la pâtisserie dos conventuais, les gâteaux qui sont faits des couvents, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait cette utilisation de blanc d'œuf et ils se retrouvaient avec des stocks de jaune d'œuf, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont développé cette pâtisserie qui est extrêmement sucrée et riche. Hein.
Très riche, vous prenez très bourratif.
Ah ben là, oui, là vous avez l'énergie pour 3 jours là, ça c'est bon.
Mais alors c'est
pas la même pâtisserie que chez nous quoi.
Nathalie, vous avez d'autres histoires savoureuses comme ça, je trépigne.
Bah on va passer du couvent au miracle, hein, ouais. Si vous voulez bien. Là c'est beaucoup plus sage. J'ai envie de vous parler du miracle du soleil ou la danse du soleil. Alors c'est un miracle ou peut-être une supercherie ou peut-être de l'hystérie collective selon certains. En tout cas, ça s'est passé en 1917 à Fatima, la ville de Fatima au centre du pays. Et là, devant une foule gigantesque, on parle de 70 000 personnes, eh bien, il y a eu des apparitions. Le soleil s'est mis d'abord à devenir très blanc. Il est sorti d'entre les nuages. Ensuite, il s'est transformé. Il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il s'est transformé en boule de feu tournoyante avant de foncer vers la Terre et puis de réintégrer sa place dans les astres devant 70 000 témoins. Alors, on ne sait pas, encore aujourd'hui, même si le lieu est devenu un sanctuaire, on ne sait pas
si c'est une hallucination collective ou pas. Ou peut-être que le curé de la paroisse a voulu se faire plein de pognon en voulant concurrencer Lourdes. On ne sait toujours pas, les scientifiques se sont penchés sur la question. Mais l'Église catholique a reconnu ces phénomènes et a déclaré ça miraculeux en 1930.
Mais ils n'avaient pas tous fumé la même chose.
Ça, non, vraisemblablement pas, mais 70 000 personnes, ça fait un peu beaucoup. Hein.
Ah, évidemment. Et Jérôme, la religion, c'est quelque chose au Portugal hein.
Ah, c'est oui, c'est important. Ça fait partie des fondements de ce pays. Mais bon, on n'est plus dans la caricature des Portugais tous religieux, des femmes tout habillées en noir qui vont à la messe tous les jours et le dimanche et tout ça et tout. Il y a encore une croyance. Il y a la religion a son importance, mais ce n'est plus comme autrefois. Ceci dit, Fatima, c'est ça reste un des trois plus gros centres de pèlerinage dans le monde, avec Lourdes notamment. Et
4 millions de fidèles par an. Ouais.
Voilà, c'est énormissime et c'est très très impressionnant. Notamment, j'ai eu la chance de couvrir ça trois fois et la messe la veille de la cérémonie des apparitions, la messe nocturne, et c'est une ambiance fabuleuse où vous avez des dizaines de milliers de personnes rassemblées avec des petites loupiottes et qui chantent l'Ave Maria. Ça vous met la chair de poule quand même, hein, croyant ou pas. Hein.
Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous pendant cette heure depuis le Portugal. Vous nous faites bien envie. À une prochaine.
Ah bah, à une prochaine, merci à vous et puis prenez soin de vous et bon été.
Bel été à vous aussi à Lisbonne, je pense que ça va bien se passer. A tout de suite sur Europe 1, nous parlerons gastronomie avec Olivier Pouls dans une seconde.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
Tout l'été sur Europe 1, je vous emmène en voyage entre 16h et 18h dans les endroits les plus savoureux de la planète, juste pour le plaisir de se balader comme ça, d'imaginer, de rêver librement. On va parler cuisine avec Olivier Pouls et donc nous allons parler, alors il y a Lorraine Quiche, aujourd'hui Portugal.
Bacalao,
la morue.
Oui, alors on ne va pas résumer toute la gastronomie portugaise à cet emblème. On va en parler un petit peu quand même, mais c'est vrai que, on le disait, le Portugal, c'est une terre assez incroyable de produits. Ouais. C'est tomates, c'est légumes, c'est poissons, avec 850 km de côte.
C'est vrai.
Vous imaginez bien qu'on peut en pêcher quand même un petit peu. Et puis il y a de l'élevage dans l'arrière-pays. On va parler des vins dans un instant. Mais pour revenir à ce fameux bacalao, morue séchée, en fait, ce n'est rien d'autre que du cabillaud. Hein, ouais. Cabillaud devient un bacalao, devient morue à partir du moment où il est séché. Alors, c'était tout simplement un moyen de conservation qu'on utilise toujours aujourd'hui. Quand vous allez vous balader dans les rues de Porto, de Lisbonne, dans des petites boutiques, vous entrez et puis vous voyez comme ça tous ces morceaux de poisson séché. Ils sont tout fins comme ça, couverts de sel.
Sec.
Et après, ils sont très simples à utiliser. Vous rentrez chez vous, vous les mettez dans l'eau, vous changez régulièrement parce que justement, il faut enlever l'excès de sel. Puis le poisson, il va regonfler, il va reprendre sa forme et vous allez pouvoir le cuisiner tout à fait normalement, Nathalie.
Est-ce que c'est une insulte, morue, au Portugal?
Ah, ça, je ne sais pas.
On aurait dû garder Jérôme, on va se renseigner.
Exactement.
Mais moi, ce qui m'épate au Portugal, c'est que quand vous parlez au Portugais de morue, ils n'imaginent pas la manger autrement que séchée. Alors que chez nous, on mange la morue fraîche.
Oui, c'est vrai que chez eux, elle passe souvent, très souvent, par ce stade. Mais dans toutes les familles, il y en a. On a toujours un stock de morue, parce que si on ne sait pas quoi faire, si on n'a pas eu le temps d'aller faire des courses, bon, il faut prévoir un peu, parce que le dessalage de la morue, ça prend quand même quelques heures. Mais tout le monde en a en stock. Et puis, c'est une préparation qui date du temps des expéditions. Les marins portugais qui ont quand même fait le tour du monde plus d'une fois, ben c'était une manière pour eux d'emmener du poisson et de pouvoir toujours avoir à un moment ou un autre du poisson mangeable sur leur bateau, parce que ça se conserve des semaines, voire des mois. Hein. Et puis, ça se prépare de plein de façons différentes. Évidemment, la brandade. Moi, il y a une préparation que j'adore et quand je vais au Portugal, je mange toujours ça. C'est les pastéis de bacalao. C'est les petites croquettes, en fait. C'est tout simplement de la pomme de terre avec cette morue, des petites herbes. On en fait des petites croquettes, on les panne et on les frit. C'est moelleux. Moi, je trouve ça absolument délicieux. Non, mais vous savez, au Portugal, la cuisine est quand même assez roborative. Il faut bien l'avouer. C'est une cuisine qui tient encore, qui vous fait prendre un peu de calories. Et puis, un autre incontournable, le poulpe. On ne peut pas aller manger au Portugal sans manger du poulpe.
Non, mais le poulpe, moi, ça me brise le cœur.
Ah bon ?
Mais parce que je vois comment on les tue.
On lui tape dessus.
On lui tape dessus, c'est horrible.
Alors, on lui tape dessus non pas pour le tuer, parce qu'en général, quand on lui tape dessus, il est déjà mort, c'est pour l'attendrir. Parce que si
il est déjà mort, c'est
oui,
vrai ?
Oui, il est déjà mort. Souvent, il est déjà mort, il a été pêché. Bon, de toute façon, à un moment, il faut bien le tuer, mais il n'est pas forcément tué en étant battu comme ça. Mais on voit souvent des gens battre le poulpe.
Ah, mais là, je suis soulagé, parce que moi, je ne pouvais plus manger de poulpe.
Vous croyez que c'était pour le tuer ?
Oui, je croyais qu'il fallait lui taper dessus pendant un quart d'heure pour le tuer.
Non, il faut lui taper dessus pour l'attendrir.
Ah, mais là, je suis soulagé. Vous ne pouvez pas imaginer.
Ben vous allez retrouver les joies de manger du poulpe. Non, parce que c'est une chair qui, en fait, est très dure. Et il y a deux manières de l'attendrir. Soit c'est lui taper dessus, ben alors on y va, franchement. Ou on le tape contre un mur ou contre les escaliers. Mais vous voyez ça dans certaines familles. C'est assez incroyable. Et il y a une manière beaucoup plus douce, hein, c'est de le mettre au congélateur. Et la congélation va casser les fibres et va permettre de déguster un poulpe qui sera moelleux et fondant.
C'est une vraie science, hein, tout
d'accord.
Ça.
Et alors, qu'est-ce qu'on boit ?
Alors, évidemment, on ne peut pas aller au Portugal sans goûter le Porto, bien évidemment. Ce vin emblématique, presque unique au monde, c'est ce qu'on appelle un vin muté, c'est-à-dire un vin auquel on a ajouté de l'alcool pour bloquer sa fermentation. Donc on a un petit peu de sucre résiduel, on a un niveau d'alcool qui est assez élevé, aux alentours de 18 degrés pour du Porto. Et ça, c'est une tradition qu'on doit aux Anglais, et ça remonte au XVIIIe siècle, parce que les Anglais se rendaient compte qu'ils étaient consommateurs et acheteurs de vin portugais, mais ils se rendaient compte que lorsque le vin était arrivé en Angleterre, bah souvent il avait tourné, il avait pris la mer, et c'était plus très consommable. Et qu'en ajoutant de l'alcool, en le fortifiant, bien ça lui permettait de voyager, et il prenait un autre goût, et en tout cas, il était bon une fois arrivé en Angleterre. Ah. Donc cette méthode, qu'on a trouvée absolument géniale, s'est développée, est devenue un marqueur des vins portugais, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de vins dits secs, c'est-à-dire non mutés, qui sont des vrais vins rouges absolument délicieux. Juste un dernier mot, allez dans le Douro, là où se trouve le vignoble portugais. C'est un des plus beaux vignobles du monde. Il y a un petit train qui serpente et qui vous emmène à la ville de Pinhão, un lieu absolument béni des dieux.
Et parfois, il y a un train de luxe qui circule. De temps en temps, il faut choper la date, c'est un peu irrégulier, dans lequel des grands chefs servent des repas à bord et c'est absolument délicieux.
Et vous rentrez par la voie fluviale, vous remontez le Douro.
Exactement.
Là, on vous a donné des bons tuyaux. Ouais. Hein, ceux-là, normalement, c'est que pour les très grands amis.
Exactement.
À tout de suite sur Europe 1 avec les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour découvrir le Portugal au meilleur de lui-même. À tout de suite. Ah là là, on resterait bien encore 3 heures au Portugal.
Oh oui, au minimum.
On est bien.
3 heures,
bien.
Moi la semaine, si vous voulez.
C'est vrai. Pourquoi jouer petit ? Nous sommes au Portugal avec Jean-Bernard Carrier qui va nous donner les bons tuyaux, les bons trucs pour en profiter. Portugal, facile d'accès, a priori.
Ouais, on se fait un petit pratique, là, quand même, juste pour rappeler qu'il y a énormément de possibilités d'accès aérien. Il y a 3 aéroports au Portugal, Lisbonne, Porto et Faro, donc c'est très facile d'y aller.
Sauf en ce moment. Sauf en ce moment,
on le rappelle, bien sûr. On rappelle aussi qu'il y a une option en train. On peut faire un Paris-Lisbonne au départ de Montparnasse, 21 heures de train via l'Espagne, pour ceux qui aiment les options un petit peu découvertes plus lentes. Sur place, un excellent réseau routier, très bon état, bien équipé. Location de voiture pour 20 euros par jour, donc c'est pas ça qui va plomber notre budget. Et je mets un mot aussi sur l'hébergement. J'ai beaucoup aimé la diversité des hébergements qu'on trouve sur place. De la petite auberge de jeunesse à 10-15 euros pour les étudiants, aux superbes Pousada et les Quintas. Ce sont de très beaux hébergements en milieu rural ou en milieu urbain, dans les monastères rénovés ou des manoirs rénovés. Là, on est pour 200-300 euros. On a quelque chose de très, très acceptable. Ouais. Voilà.
Votre région préférée, c'est laquelle, vous ?
Bah, écoutez, je vais vous dire l'Algarve, parce que c'est celle que je connais le mieux. Alors évidemment, je n'ai rien inventé. C'est la plus touristique, assez urbanisée, c'est vrai, mais il y a des plages sublimes. On en compte plus de 150, donc on a vraiment du choix en
Et
Algarve.
Votre plage préférée ?
Allez, je vais vous le dire. Alors, c'est pas vraiment une plage, c'est mieux qu'une plage. C'est une succession de criques à partir d'un petit village qui s'appelle Carvoeiro. Retenez bien ce nom, Olivier. Carvoeiro pour votre prochain séjour. Carvoeiro, c'est un petit village de pêcheurs qui est resté dans son jus, et avec des façades blanchies à la chaux, sur une colline, en surplomb d'une plage. Et au départ de Carvoeiro, justement, il y a un sentier côtier qui fait 7 km, qui s'appelle le Sentier des 7 Vallées Suspendues. Ça porte très bien son nom. Et là, on a d'incroyables panoramas sur les plus belles criques d'Algarve, des eaux limpides, des criques pleines de charme, du sable doré, des falaises ocre, des grottes au milieu de tout ça. C'est franchement dans la catégorie des pépites.
Mais l'eau
pour
est
moi.
Froide.
Ah, l'eau, elle est un peu fraîche. Oh, allez, 22 degrés, ça vous ira, Olivier ?
Ouais,
Allez. Un peu juste. Hein.
Vous faites les difficiles. Oh, bah, sinon, on prend un kayak et puis c'est tout. On se balade en kayak le long, ouais, de, ces, le long de cette côte.
Et je rajouterais, il y a souvent de la brume. C'est vrai.
Oh, là, vous êtes vraiment difficile.
Il y a parfois de la brume au-dessus de l'Atlantique.
Ça dépend des saisons. Ouais, mais ça donne une ambiance, cette espèce de côté un peu haze, comme on dit en anglais, en photographie.
Haze.
Ouais, le haze, la brume, ce côté un peu voile.
Vaporeux.
Ce côté voile et vaporeux. Ouais. Moi, j'aime bien, ça donne une ambiance.
Mais c'est vrai que ça participe beaucoup au charme.
Ouais, ça fait partie du charme et ça donne une ambiance très, très mystérieuse, justement.
Bon, c'est la dernière fois que je vous autorise à nous dire que vous aimez les oiseaux.
Ah, les oiseaux. Vous pensiez quand même pas que j'allais parler de l'Algarve sans parler d'un poste d'observation des oiseaux. C'est le parc national d'Aria Formosa. C'est une superbe réserve naturelle qui se trouve tout près de l'aéroport de Faro, figurez-vous. On débarque de Faro, 10 km plus loin, on est dans cette zone naturelle. On a parlé de la Camargue hier. Eh bien, c'est une Camargue en miniature, figurez-vous.
Il y a encore des flamants.
Il y a des flamants roses. Et surtout, attention, tenez-vous bien, ah, j'ai mieux que ça, la galinule pourpre. Je l'ai approché en kayak avec un guide naturaliste. La galinule pourpre, c'est l'emblème du parc. C'est un magnifique oiseau avec un bec rouge et un superbe plumage bleu-vert. Ça, ça vaut le déplacement.
Ouais. Alors, faut pas, quand on parle du Portugal, il ne faut pas parler que des côtes, parce que moi, j'aime beaucoup aussi l'intérieur des terres.
Eh oui, l'intérieur des terres. Surtout en Algarve, on peut faire des petites escapades bien sympathiques. Moi, ce que j'ai fait, j'ai suivi ce qu'on appelle la route du Liège. Voilà, c'est une route qui vous emmène près de Loulé, à San Brás de Alportel. J'essaye de prononcer ça correctement. C'est dans cette région qu'est produit le meilleur liège du monde. Et avec ce liège, Olivier, ça va vous intéresser, on fabrique des bouchons pour les meilleurs vins et les meilleurs champagnes du monde. Voilà. On comptait dans cette vallée jusqu'à 10 usines de fabrication d'objets en liège au 19e siècle. Il en reste quelques-unes qui se visitent. On peut visiter les ateliers de fabrication. Il y a même, on peut même rapporter, Nathalie, des jolis objets décoratifs en liège. Des paniers, par exemple, ça vous irait. Même des chaussures en liège.
Belle Deschamps, quoi.
Oui, Belle Deschamps. Oui. Très nature et écolo. C'est très écolo, tout ça.
L'histoire, il y a des concours de sculpture de sable dans le coin, non?
Ouais. Alors ça, c'est pas mal non plus. Il y a une attraction très spéciale. C'est aussi près de Loulé, la ville de Loulé. À 34 km à l'ouest. Ça s'appelle Fiesa, c'est simple à retenir. C'est le plus grand concours de sculpture de sable dans le monde. Ça attire des artistes en provenance du monde entier. Ils ont 45 000 tonnes de sable à disposition. Ils sculptent ça, ça donne des œuvres spectaculaires. Certaines, tenez-vous bien, font jusqu'à 12 mètres de haut. Donc ce sont de vraies œuvres d'art. Elles sont illuminées la nuit et ça dure tout l'été.
Merci beaucoup Jean-Bernard pour vos bons conseils pour visiter le Portugal. Merci les amis de nous avoir fait voyager. Demain, nous repartons et on va prendre le frais. Prévoyez votre doudoune. Nous irons au pays des caribous et du sirop d'érable.
Tabernacle.
Et oui, au pays des lacs par millions. Je dis bien par millions de lacs. Nous irons au Canada. On ira aussi un petit peu dans le grand nord du Canada, chez les Inuits. Le nord gelé et blanc, c'est une région que j'adore. Et puis juste avant, dans une des plus belles régions de France, qui est une sorte de petite enclave, de refuge, d'endroit à part, ce sont les Cévennes.